Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lespelou.
Parlez avec Lorenzi qui est là, directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui. Moi je parle pas de Fèvre.
Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première j'ai blessé un spectateur, et la deuxième elle est rentrée.
C'est tout, c'est tout.
Gendouzi, l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe. Devant, Gendouzi, Félix, de Lilian Brassier.
C'est bon d'aimer le stade brestois.
Brestois. Brestoise, est-ce qu'on n'a pas marre de cette saison? Vivement qu'elle se termine. Bienvenue pour ce 86e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint uniquement par Fanch aujourd'hui. Yann étant occupé par son emploi du temps ministériel. Mais plaisir de te retrouver, Fanch.
Plaisir partagé. Bonjour à tous les gens qui ont encore le courage de nous écouter parler de cette saison donc en podcast. Tu as raison, hein. C'est vivement que ça se termine, mais en espérant quand même que ça se termine bien. Et encore, on va en discuter.
Que ça se termine du bon côté de la ligne. Pour l'instant, on est du bon côté de la ligne. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment, je crois, un mois et demi qu'on n'a pas été relégable. Ouais, c'est dire si ça avance très très vite en bas. Que ce soit de notre côté ou du côté des adversaires. Mais nous, on va discuter de ce qui s'est passé dans le dernier mois et demi de compétition, généralement. Donc, on dit plein de choses. Et dans les semaines suivantes, tout ce qu'on dit devient faux. Donc, ouais, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a plein de choses négatives à dire. Donc, il y a peut-être moyen que sur cette fin de saison, ça lâche les chevaux, quoi.
Ouais, et si jamais ça commence à gagner, promis, on ne dit plus rien jusqu'à la fin.
Exactement.
Parce que pour rappel, on avait fait un podcast juste après le match de Lens, où Brest sortait d'une série très intéressante à une victoire contre Angers 4-0, un nul à Lyon et un nul contre Lens. On s'était dit, ça y est, c'est bon, la méthode est trouvée, on va enfin pouvoir... Et tu m'avais même demandé si je croyais au maintien, et j'avais même dit oui. Enfin, pas entièrement non. C'est fou. Et après, on en prend trois.
Ah, dès que tu deviens optimiste, oh là là, ça, oui. Les étoiles se désalignent.
Ça
ne fonctionne plus.
Parce qu'après, on a fait 4 défaites en 5 matchs. Donc voilà, c'était. Voilà, bravo à nous.
Et oui, à l'époque, jadis, Éric Roy était toujours invaincu en Ligue 1 depuis 10 et quelques. 4000 et quelques jours.
C'est ça.
Depuis, bon, c'est plus les victoires qui sont absentes plutôt que les points. Hein, 4 défaites. Un nul contre 3 et une victoire contre Strasbourg. Finalement, bon, ça prend des points et ça ne perd pas contre les adversaires directs, ce qui est quand même un bon point, on va dire, un point nécessaire si on veut se maintenir dans ces matchs à 6 points.
Je dirais même que c'est presque ce qui va compter sur la fin de saison. Hein. On a encore Auxerre, Ajaccio à jouer. C'est des matchs qui seront déterminants. Tu les gagnes, tu vas te donner le droit, je pense, de poursuivre l'aventure en Ligue 1. En revanche, tu les perds, ça peut s'annoncer très compliqué. Nous, on s'est donné le droit de perdre une rencontre, une confrontation directe, en ayant aujourd'hui 3 points d'avance déjà sur Ajaccio et un petit point sur Auxerre. Donc, on est quand même en meilleure position que ces équipes-là. Pour autant, c'est pas glorieux. La ligne de flottaison est juste limite là. Hein.
Non, c'est ce qu'on se disait avant de démarrer. Si on se maintient, je pense pas qu'on l'aura mérité. C'est tout simplement qu'il y aura 4 équipes qui l'auront encore moins mérité que nous. Ce qui est absolument dramatique d'un point de vue général, d'un point de vue niveau du championnat. En bas, c'est vraiment inquiétant et Brest fait partie de ces équipes très inquiétantes.
Oui, bah c'est vrai, quand tu parles de mérite, si on doit se remémorer des matchs cette année qui nous ont fait vibrer, des matchs dans lesquels on a été vraiment une équipe intéressante à voir jouer, au cours desquels on est sorti fier du stade par exemple ou de la télé, il y en a vraiment vraiment pas beaucoup finalement, hein, des matchs qui nous ont marqué cette année. Je regarde un petit peu le classement de l'année dernière pour comparer à la J28. Donc là on a 24 points. Si on avait été donc fait moins bien que Saint-Etienne l'année dernière qui déjà à la même époque avait 26 points. Le 17e avait 27 points.
Donc... Le dénominateur commun, c'est Mali Camara.
Oui, effectivement. Je ne vais pas balancer. Hein. Mais, euh... mais comme quoi sur une saison un petit peu, là c'est une saison où les équipes n'avancent pas, alors je pense qu'il y a eu aussi, c'est lié hein, au 4 décembre, des équipes qui ont peut-être joué plus mesurées, et sur la saison encore d'avant, je regarde, alors je regarde en direct, hein, peut-être que je vais me contredire, mais sur la saison donc 2020-2021, ouais c'est ça, le 18e avait 25 points, et le 17e avait 27 points, le 16e 30 points, donc c'est un championnat où les équipes de queue de peloton avancent vraiment très lentement, comme des sprinteurs en montagne.
Et quand on prend un peu, bah, tu parlais des matchs qui nous ont fait vibrer, alors on peut parler des matchs nuls, mais déjà si on diminue notre échantillon aux victoires, ça fait que 5 matchs sur 28. On a gagné, on a été content 5 matchs sur 5 dimanches sur 28 cette saison, ce qui fait quand même très très peu, hein, on va pas se mentir, c'est pas une saison glorieuse que l'on vit. Donc, il y en a une à domicile, deux à domicile contre Troyes et Angers, ouais. Et c'est tout.
C'est tout, contre Troyes
et Angers. Voilà, c'est tout. Deux victoires après, à domicile, après. Voilà. Il y a deux matchs, alors on a été content contre Marseille, voilà, en sortant du stade aussi en début de saison, contre Paris, alors moi j'y étais pas, mais j'imagine que c'était quand même une soirée sympa à vivre au stade.
C'était bien, honnêtement, que ce soit dans les tribunes, que ce soit même sur le terrain. Alors, on peut reprocher aux joueurs, je pense, peut-être d'avoir tenté un petit peu, pas le tout pour le tout, mais d'avoir joué, trop joué peut-être, et pas préservé ce point qui, contre Paris, était complètement un point bonus. Pour autant, je trouve que c'était bien de leur part d'essayer de gagner, parce qu'on leur aurait reproché, s'ils ne l'avaient pas essayé, parce qu'on voyait que c'était un pari qui n'était pas très concerné, on l'a vu d'ailleurs le dimanche dernier contre Rennes, ils se sont fait battre alors que ce n'était pas un Rennes extraordinaire. Brest avait le moyen de prendre ce point du nul, ils ont été battus par une action de... Enfin, je dirais même pas une action de classe, mais avec des joueurs comme Messi et Mbappé, bon, ils ont joué sur leur qualité, et évidemment on s'est fait transpercer, mais pour le reste, Brest méritait au moins le match nul, je pense. Et je leur reproche pas d'avoir joué. Si on descend et qu'il nous manque un point, pour moi, ce sera pas ce point-là qui nous fera défaut. C'est sur d'autres matchs où on n'a pas fait ce qu'il fallait.
Ouais, c'est totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Mais c'est vrai qu'on voilà, on vit une saison quand même assez pauvre, surtout par rapport aux attentes un peu qu'on avait soulignées en début de saison sur le premier podcast. On passe pour des guignols, évidemment. On a l'habitude. Mais c'est vrai qu'on en parlait de milieu de tableau, d'un maintien quand même assez relativement confortable. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. D'un point de vue positif, on va dire qu'il y aura quelque chose à jouer jusqu'à la fin de saison. C'est-à-dire qu'on va vibrer, on va avoir des sueurs froides. Mais au moins, on va vivre des choses. Quoi. Bon, la saison de Clermont, elle est sympa, mais la saison de Clermont, elle s'arrête. Elle termine là déjà. C'est nul. Voilà, c'est nul.
Alors, pour revenir sur les ambitions, c'est vrai qu'on avait parlé d'un milieu de tableau et d'un maintien plutôt facile à obtenir. Je dois également rappeler que sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de gens qui avaient évoqué l'Europe. Hein, je ne veux pas balancer, mais recrutement incroyable, il faut viser l'Europe.
Masterclass
de Lorenzi. Bon, on ronfle, comme dirait l'autre. Moi, effectivement, je m'attendais à un maintien plus serein. Je crois que j'avais parié une 13e place, quelque chose comme ça, sur le tweet qu'on avait mis.
Pourquoi ? Et si on savait en plus que le 17e avait 25 points après 28 journées, 23 points après 28 journées,
oui.
On peut se dire que voilà, le maintien, normalement, ça aurait dû être, on va dire qu'on aurait dû être à la place de Nantes ou Clermont, là.
Bah, surtout avec la saison qu'on a faite précédemment, on finit 11e, normalement tu te dis bon, tu as des bases solides pour construire, et finalement pour moi la marche et le virage qui a été complètement loupé, c'est le virage de l'été dernier, entre un recrutement qui est pas au niveau, parce que finalement quand on fera le bilan, les nombres de joueurs recrutés l'été dernier qui sont des titulaires dans cette équipe et qui apportent véritablement quelque chose à l'équipe, bah, il y en a très peu. Achraf Dari, ok, moi je pense que il ne vaut, enfin ça c'est pas mieux qu'un Brendan Chardonnay, clairement. À mon sens, je vois pas pourquoi il est titulaire ces derniers temps et qu'est-ce qu'il fait de plus que Chardonnay, ou même un RL quelque part. Hein. Alors Yann n'est pas là, je peux le dire. Des joueurs qui ne jouent pas, Karamoko Dembélé par exemple, Tahirik Arconte qui a été recruté. Vous allez me dire que c'est parce qu'il est jeune et qu'il a le temps, certes, mais là il n'était même pas convoqué sur la dernière match contre Troyes. Il y a Pierre Lesmelou évidemment, qui est un joueur de Ligue 1 indiscutablement, mais qui selon moi aurait dû apporter plus. Et après sur le recrutement, les joueurs nous marquent tellement que je les ai oubliés, tu vois. Donc voilà.
Même cet hiver.
Même cet hiver, oui. Bah, Loco qui arrive pour être latéral gauche, on s'est dit enfin un latéral gauche, enfin un gars lorsqu'il sera à gauche en position offensive va pouvoir mettre un centre. Et ben non parce qu'il joue jamais. Loïc Rémy, il est venu pour la réadlétisation, donc il doit être à Quérampire ou je sais pas où, parce que là c'est pas possible hein, de venir en maison de retraite comme ça. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont ramené?
Albert Ellis.
j'invoque le cinquième amendement et je ne veux pas parler. Non mais Albert Ellis, soyons sérieux un instant.
Albert Ellis, il y a deux personnes qui ont vu qu'il avait des qualités et malheureusement elles travaillent toutes les deux au Stade Brestois, c'est con.
C'est pas de chance. Et d'autant plus con que t'as mis une option d'achat à 5 millions d'euros si tu te maintiens. Alors visiblement il y aurait une clause de nombre de minutes jouées pour qu'elle soit activée. J'espère et j'ose croire qu'on n'est pas suffisamment con pour avoir fait ça. Pour ne pas avoir fait ça. Mais sinon, c'est dramatique parce que on se posera peut-être la question tout à l'heure, ou je sais pas si on peut ouvrir le débat maintenant, il faut se maintenir. C'est, oui, évidemment que Brest doit se maintenir en Ligue 1. Brest doit se maintenir en Ligue 1 pour continuer à progresser parce qu'il a un projet de stade qui, je pense, tomberait peut-être à l'eau sans cette Ligue 1, sans l'argent de la Ligue 1. Et on sait très bien, quand on tombe en Ligue 2, tu remontes pas l'année d'après la fleur au fusil. On a vu comment ça a été compliqué lorsqu'on est redescendu en 2013 avec les années Dupont. Il a fallu attendre que Furlan arrive avec toute sa méthode. Même Furlan a mis 3 ans à monter.
Son logiciel.
Le logiciel, bien sûr, le big logiciel sur les big matchs. Mais c'est extrêmement compliqué. Mais se maintenir, pourquoi faire pour refaire une saison comme ça l'année prochaine? On n'y aura plus que 18 clubs, donc forcément avec un niveau qui sera un petit peu supérieur. Le 16e sera en barrage. Bon, si c'est pour revivre la même chose et gagner que 2 matchs à domicile en battant 3, en marquant 2 pénaltys, commence à être un peu fatigué, quoi. Ce serait bien de tenter des choses. Je vois Reims, je vois Lorient, je vois Montpellier, je vois Toulouse, je vois Clermont. Pour moi, c'est pas des équipes qui ont beaucoup plus de raisons d'être supérieures à Brest, et pourtant, elles nous écrasent très facilement cette année, quoi.
Mais d'un côté, il y a une certaine justice hein, dans cette Ligue 1 des équipes qui travaillent bien, être un peu mieux classées que Brest actuellement, et les équipes qui sont dans le dur, hein, Auxerre qui a quand même viré son entraîneur qui l'avait fait monter, Troyes qui également a changé d'entraîneur. Bon, Ajaccio, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, parce que je pense que l'effectif de base est à sa place, à la 19e place, mais est encore dans la course.
Déjà, ils sont montés l'année dernière en étant très très faibles offensivement avec une défense solide.
Ouais, donc, c'est ça.
C'est compliqué.
Mais oui, tu as parfaitement raison. Pourquoi quelles sont les raisons qui feraient que Brest mérite de rester en Ligue 1 cette saison et le ferait et l'année prochaine surtout? Quel est le projet porté pour l'année prochaine? On se demande vraiment en fait qu'est-ce qui a été fait, le fait que les dernières recrues arrivent pour la majorité le 31 janvier, c'est quand même assez inquiétant, d'autant que par exemple si on prend l'exemple du latéral gauche, le latéral gauche donc que Brad Delocco a remplacé est parti 3 ou 4 semaines avant. Donc, normalement il y avait du temps pour le remplacer. J'imagine que Ronen il n'a pas demandé la veille de vouloir partir. Donc ça veut dire que le départ du Ronen est presque préparé, aurait dû presque être préparé. Donc voilà, c'est un tout. On peut parler de l'entraîneur aussi, qui a mis quand même un mois et demi pour arriver, et qui est peut-être le moins fautif de cette fin de cette saison, on va dire, puisque même si les statistiques ne parlent pas pour lui, il est quand même arrivé dans une situation assez critique et c'est le pompier de service, quoi. C'est jamais facile d'arriver en pompier de service, surtout quand on n'a pas entraîné depuis 10 ans. Et on se retrouve dans une situation où on avait l'impression que Brest progressait depuis année après année, pardon, et on a l'impression d'avoir fait 2 pas en arrière.
Alors, je rebondis sur ce que tu dis sur les statistiques et sur Éric Roy. Effectivement, le journal L'Équipe a donc publié une interview du coach brestois. C'était dans le journal de samedi dernier, donc samedi, la date c'est le 18 mars, dans lequel Éric Roy s'exprime, hein, pas vraiment sur le stade brestois d'ailleurs, mais plus sur son retour sur un banc et sur ses expériences passées, sur la manière dont il a passé son diplôme, pourquoi est-ce qu'il a été un peu placardisé, mais pourquoi est-ce qu'on l'avait oublié, et plutôt, il était plutôt maintenant connu comme soit directeur sportif, soit consultant, sur la suite d'ailleurs aussi de sa carrière. Et il y a un petit chiffre, hein, c'est la moyenne de points obtenue par Éric Roy et comparée à celle obtenue par Der Zakarian, et j'étais un petit peu surpris parce que curieusement, Éric Roy fait moins bien que Der Zakarian, qui lui avait obtenu 1,27 points en 15 rencontres, et Éric Roy lui est à 1 point par match, avec 2 victoires, 5 nuls et 4 défaites en 11 journées. Bon, on en a parlé un petit peu ensemble avec Quentin avant de commencer le podcast. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Est-ce que Éric Roy est un mauvais entraîneur et fait moins bien que Der Zakarian ? Je ne pense pas. À mon sens, si on a des résultats qui sont ceux-là avec Roy, identiques avec le trio Grugy, Bourgis, Lachuaire, les mêmes avec Der Zakarian, et même si on remonte à Daloglio, un peu la même chose, c'est que le souci ne vient pas de l'entraîneur, à mon avis.
C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Toute proportion gardée, quand on change d'entraîneur constamment et que les mots restent les mêmes, ça vient sûrement pas des entraîneurs. Donc à un moment donné, il faut se poser la question des joueurs, quels sont leurs manques. Ce qui est frustrant dans cette équipe, c'est que certaines semaines, on voit que c'est possible, et puis la semaine suivante, on passe de tout à rien, et c'est ça qui est très très frustrant. Ils nous montrent qu'ils peuvent le faire et une semaine après ils ne peuvent plus le faire. On arrive fin mars, on ne sait toujours pas quel stade brestois on va voir le week-end. Est-ce qu'on va voir un stade brestois engagé qui se montre comme tous les samedis à 21h, hein, contre Marseille, Paris, là il y a du monde, hein, à domicile, à Francis Leblé, par contre à Troyes, à Montpellier, à Lille, là ça se cache, sauf à la 80e minute où il faut commencer à se bagarrer, et là ça commence à se bagarrer, il y a du monde, hein, pour aller sur l'arbitre, sur les joueurs adverses, mais à un moment donné, mettez cette hargne pour récupérer le ballon, mettez cette hargne dans les duels. Là évidemment, les équipes adverses, elle te marche dessus, donc elle ne te respecte pas. T'es la petite salope de la Ligue 1, faut le dire. Voilà, on est la petite salope de la Ligue 1. Mais tout le monde nous marche dessus. Il y a des mecs en face, là, à Lille, ils balancent des ballons sur le terrain, mais ils ont raison. Ils ont raison. Tu fais ce que tu veux contre Brest. Tu te balades. Donc à un moment donné, tu utilises toutes les méthodes pour gagner. Et même si tu n'as pas besoin de ça, tu les utilises parce que tu sais qu'en face, il n'y aura rien.
D'ailleurs, les ballons contre Lille, le lendemain, tout le monde l'avait oublié et plus personne n'en parlait. Hein. Ça n'a fait aucun bruit, rien du tout. Et je te rejoins sur le fait que Brest est extrêmement irrégulier et qu'on voit, notamment contre les adversaires qui sont des adversaires de haut de tableau, parce que Brest a pris un point contre Marseille à domicile, qui est deuxième, un point contre Lens à domicile, qui est troisième. On a fait un match contre Monaco où on perd d'un but, mais c'était pas ridicule. On fait nul contre Lille, on va faire un nul à Lyon. Donc contre des équipes qui sont censées être des grosses cylindrées, on est plutôt bon. Après à l'extérieur, même si on a été gagné à Strasbourg, on va pas non plus cracher dans la soupe. On a été gagné à Angers et on a battu 3 certes, mais contre Ajaccio à domicile, je pense au match à Auxerre où on perd des points complètement. Alors quand je parlais de points perdus bêtement contre le PSG, alors les deux points perdus à Auxerre, là par contre si on descend et que c'est Auxerre qui se maintient,
ils sont gratinés, ceux-là.
Il y aura des comptes à rendre. Je me rappelle que j'ai été à Nantes cette année, comme tous les ans depuis qu'on est monté en Ligue 1, et comme tous les ans depuis qu'on est monté en Ligue 1, je suis sorti de la Beaujoire avec 3 buts dans la gueule et absolument aucune espèce de sentiment de me dire on a bien joué, on a perdu, mais non, on a perdu parce qu'on s'est fait rouler dessus. Brest, je crois, alors j'ai la statistique exacte m'échappe, mais c'est Nicolas Blanzat, je crois, qui a sorti sur Twitter le nombre de fois où Brest a ouvert le score et où Brest a finalement soit fait match nul, soit perdu. C'est absolument colossal. Combien de fois on a ouvert le score, et puis après, on a laissé l'adversaire revenir, puis l'adversaire a marqué un deuxième but. C'est le cas à Lille, c'est le cas contre Troyes. On peut en parler de ces matchs-là où on a été vraiment dans l'attitude, je dirais pas en dessous de tout, parce que je pense que les joueurs, c'est vraiment pas des mauvais gars, je pense qu'ils ont envie de, de bien faire, mais il n'y a pas, je ressens pas cette cohésion comme on pouvait la sentir, et c'est pas toi qui va me démentir, je pense, à l'époque de la Ligue 2 avec Furlan, ce qu'ils appelaient la team pirate, et bon, on perdait 1-0, on savait qu'on allait revenir, c'est pas grave, on a pris un but, bah tant pis.
Et
on
ouais, dès là, bah, y avait, on se souvient de la saison, la première saison de Furlan, même avec Nîmes Mopé.
Bien sûr.
Combien de matchs on a soit égalisé, soit gagné dans les 5-10 dernières minutes.
Et là, c'est d'autant plus frustrant que face à des grosses équipes, tu arrives à produire quelque chose, parce que c'est les mêmes joueurs qui sont à domicile, c'est les mêmes joueurs qui sont alignés contre Marseille au mois d'août, que les joueurs qui sont alignés à Montpellier 6 mois plus tard, ou alignés, je ne sais pas, face à Lorient. Et pour autant, eh ben, tu vois pas du tout les mêmes visages, il n'y a pas de cohérence sur le long terme dans le jeu. On ne voit, si tu me demandes comment on joue Brest cette année, à part te répondre mal, je sais pas, tactiquement je ne sais pas, on a le ballon derrière, Brassier a le ballon, attention, ça peut partir dans tous les sens, boum, ça part, et puis advienne que pourra. Alors je pense que le maintien, s'il doit y avoir, passera par deux joueurs que on a identifiés d'ailleurs tous les deux, hein, et que je pense qu'on est pas les seuls à avoir identifié, c'est Franck Honorat et Romain Del Castillo. Si ces deux joueurs sont au top de leur forme physique, si ces deux joueurs ne sont pas blessés jusqu'à la fin de saison, alors on pourra y croire, parce que Romain Del Castillo, c'est un joueur de foot, clairement, c'est un très bon joueur de foot, il a quelque chose, il est décisif en plus de ça, notamment par ses passes, je le trouve vraiment très intéressant. Franck Honorat, il a quand même, même s'il a des difficultés par rapport à la saison dernière, il marque contre le PSG, il marque contre Strasbourg, il n'est pas bon à 3, mais après ça peut arriver. Si ces deux joueurs-là sont en état, on peut espérer. Sans eux, c'est foutu. D'ailleurs, tu avais prévu de les mettre quelque part, Honorat et Del Castillo.
Oui, dans le congélateur, hein, c'est très important. Très important, donc, du lundi au samedi, de le mettre dans le congélateur, de le sortir le dimanche matin, surtout pas oublier, parce que sinon, bah, évidemment, il reste congelé pour le match, hein, ce qui n'aidera pas le club. Et de les remettre, bien sûr, immédiatement après la rencontre, hein, ne pas oublier, même si on sait très bien que c'est jamais bon, hein, de remettre un produit congelé, décongelé au congélateur. Hein, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mon cher François, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est évidemment, hein, les deux joueurs décisifs, presque les deux seuls joueurs décisifs, hein, puisque les deux seuls joueurs qui arrivent déjà à faire une passe à plus de 15 mètres. Ce qui, quand même, en tant que joueur de foot, c'est quand même assez important. Et tu parlais, bah, de la façon dont Brest jouait. Ce qui est fou, moi je regarde pas mal de matchs, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, mais vraiment on a l'impression qu'il n'y a que Brest qui joue comme Brest, qui a peur, on est fin mars, on n'a toujours pas l'impression qu'il y a 11 mecs qui se sont découverts hier. Qui joue pour la première fois avec eux, il n'y a pas l'impression qu'il y ait d'automatisme entre les joueurs. C'est vraiment très très compliqué. Le milieu de terrain est absolument pas au niveau Ligue 1. Il y a pas mal de gens, qui critiquent le positionnement de Pierre Lesmelou. En fait, je suis assez d'accord avec ça, puisque bon, Pierre Lesmelou en point de basse, ce serait bien si à la limite on jouait au foot. C'est-à-dire que si lui, on le trouvait pour être le premier relanceur. Mais là, il n'y a pas de premier relanceur. Le premier relanceur, c'est Brassier ou Dari qui envoie une chiche devant. Donc, bah, mais Pierre Lesmelou dans les deux devant, et met quelqu'un qui en plus est un peu plus vif que Pierre Lesmelou pour faire l'essuie-glace au milieu de terrain, quoi. Vraiment,
Comment est-ce que toi tu expliques cette qualité de pauvreté dans le jeu brestois, dans la prestation collective semaine après semaine? Parce que généralement, quand on fait des bons matchs, c'est aussi des bons matchs au courage, dans le combat, mais c'est pas des bons matchs parce qu'on a été extraordinaire dans le jeu en se procurant 15 occasions. C'est plutôt parce qu'on a répondu dans le physique, dans le duel, et qu'on n'a pas laissé l'adversaire développer son jeu, et qu'on a parfois été transcendant sur un ou deux contres. Comment t'expliques, donc t'as parlé du positionnement de Pierre Lesmelou notamment, mais est-ce que c'est parce qu'il y a un nombre d'entraînements par semaine qui est quand même relativement famélique? On a dit cette semaine, je crois, c'est 4 entraînements. Pour l'équipe professionnelle.
Semaine de trêve, hein, avec 4 joueurs internationaux.
Mais on n'a pas 14 joueurs qui partent en sélection nationale. C'est peut-être justement l'occasion de travailler, peut-être travailler différemment, mais de travailler. 4 séances, bon, c'est pas Emmanuel Macron s'il voit ça, aïe aïe.
Ça crée de la dette au Stade Brestois. Hein. Je te dis, ça crée de la dette. Déjà, on a, c'est un problème qui, quand même, qui est mentionné régulièrement, c'est qu'on a vraiment un gros problème de joueurs décisifs dans l'axe du terrain. Sur la colonne vertébrale, t'as pas, notamment au milieu de terrain, mais bah, je suis désolé, alors, Harris, Belkebla, Magnetti, joueurs, on va dire, soldats. Mais joueurs soldats, c'est pas à ces postes-là, il faut un peu plus de joueurs de foot, quoi, pour garder le ballon, pour essayer d'orienter un peu tout ça. Et là, les seules possibilités, on va dire, c'est de créer du danger, c'est d'aller sur les côtés. T'es d'accord avec moi, je pense?
Oui.
Les deux meilleurs joueurs, de toute façon, sont sur les côtés. Donc autant donner ton ballon sur les côtés et essayer de centrer. Hein. Généralement, c'est plutôt des centres avec Honora del Castillo qui font la différence. Mais ouais, enfin, est-ce que tu vois, alors Belkebla a failli contre Strasbourg, est-ce que tu vois, avant le match, tu te dis, aujourd'hui, Belkebla ou Magnetti vont marquer?
Non, bah quand Magnetti tire avant qu'il ne frappe, on se dit non, fais pas ça. Belkebla a mis un beau but, c'est con, contre Strasbourg. Mais effectivement, c'est des joueurs qu'on avait déjà en Ligue 2. Et moi, je les respecte énormément, ces deux joueurs, Belkebla et Magnetti, parce que je pense qu'ils font partie de. Ils représentent un peu l'âme aussi du Stade Brestois. Et je pense que malgré le niveau technique de ces deux joueurs, qui, sans le faire offense, n'est pas celui de la Ligue 1, en tout cas pas suffisant pour être de bons joueurs de Ligue 1, je pense que dans une équipe qui tourne en Ligue 1, ils peuvent avoir leur place, joueurs de complément. Et il y a des joueurs en Ligue 1 qui sont dans des équipes qui sont mieux classées, qui sont certainement pas meilleurs qu'eux.
Ouais, tout à fait. Par contre, il faut des mecs à côté qui ont un autre profil.
C'est ça, des gars qui
même en Ligue 2, on se disait que Magnetti et Belkebla, c'était la même chose.
C'est ça, oui, exactement. C'est des gars qui les tireraient un petit peu vers le haut. Et déjà, tu n'en mets que un des deux sur le terrain en même temps, à mon sens. Tu ne peux pas te mettre 20% de ton équipe en étant Belkebla et Magnetti. Et on a souvent vu dans différentes équipes, même des équipes parfois de très haut niveau, qui gagnaient des Ligues des Champions, des joueurs, par exemple, en charnière centrale, qui étaient un petit peu plus faibles, mais à côté d'eux, ils avaient un gars tellement fort, tellement taulier, que bah, le niveau de jeu haussait forcément. Et sur une saison ou deux, ils surperformaient, ils étaient des joueurs tout à fait corrects. Nous, il y a des lacunes au terrain, le recrutement. On a parlé d'Ibrahima Diallo qui est parti, bah, ça va bientôt faire une décennie. Hein. Il n'a toujours pas vraiment été remplacé. Ça fait 2 ans qu'on joue sans latéral gauche. Alors, tu l'as dit tout à l'heure et tu as tout à fait raison. Je pense que tu as dit quelque chose d'extrêmement juste. Si on descend en Ligue 2.
On est la salope de la Ligue 1 ?
Non, aussi, mais si on descend en Ligue 2, si on descend en Ligue 2, mais on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ça sera la faute de personne d'autre à part la faute du Stade Brestois. Il n'y aura pas eu d'injustice, ce ne sera pas l'arbitrage, ce ne sera pas le manque de bol, ce ne sera pas le Covid, ce ne sera pas ce que tu veux.
Ce ne sera pas parce que le Stade Brestois a mal travaillé. Les autres, nos équipes n'ont pas surperformé non plus, donc ce ne sera pas de la faute des autres équipes non plus.
Non, les autres équipes n'avancent pas. On a tout pour ne pas descendre, et on va peut-être faire l'exploit de descendre. Si on descend, on descend. Hein, c'est l'histoire d'un club, c'est l'histoire du Stade Brestois. Je pense que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, j'en sais rien. On voit bien que, de toute façon, puisqu'on n'a pas vraiment de projet, j'aimerais bien qu'on m'explique le projet. J'aimerais bien que moi, on m'explique, sur le long terme, sur le moyen terme, même sur le court terme, si vous voulez. Mais on va essayer de mettre ça en place. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place? Ne me dites pas qu'il y a un projet quand vous faites jouer un mec qui est censé être défenseur central ou défenseur droit latéral gauche quand vos
Et pourtant, je pense que c'est l'un des mecs sur lequel on peut le moins taper.
Ah, mais complètement, Jean-Kévin Duverne, complètement, le gars, il fait absolument ce qu'il peut, mais c'est pas de ça. Le gars, il est pas latéral gauche, il va pas devenir gaucher par l'opération du Saint-Esprit. Donc, un latéral gauche, un latéral droit à gauche depuis 2 ans. Magnetti, Belkebla, qui sont de bons joueurs de complément, de bons joueurs de Ligue 2, je dirais, qui enchaînent les matchs de Ligue 1 depuis 2 ans et demi. Offensivement, si Steve Mounier n'est pas là, je sais pas. Je sais pas ce qu'on a prévu depuis pareil, 2 ans, 2-3 ans. Il n'y a rien. Y a pas... Est-ce que tu as souvenir d'un autre attaquant de Brest en Ligue 1 depuis qu'on est monté que Steve Mounier?
Il y a le meilleur buteur du club cette saison.
Steve Mounier?
Non.
Ah oui, Jérémy Le Doiron.
Eh oui.
Ah oui, bah non, mais.
Et pareil, on peut pas non plus
pareil,
cracher
pareil,
sur lui. Sauf que le problème, c'est que si Jérémy Le Doiron est le meilleur buteur de ton équipe en Ligue 1, c'est qu'il y a un souci.
Bah voilà, exactement. Parce que Jérémy Le Doiron aussi. Enfin, moi, je suis pas un
si immense. Volontaire qui peut être, pareil, niveau technique. Et pas de souci, Jérémy Le Doiron, je pars avec lui en Ligue 2, il n'y a pas de problème.
Moi,
entre 10 et 15 buts.
Et quand tu vois la difficulté que c'est de monter en Ligue 1 et comment on a galéré sur des matchs, et la dernière saison, c'était tellement l'euphorie, et on a tout, franchement, la dernière saison avec Furlan, on a quasiment tout gagné. Et si tu regardes bien le classement, on monte avec 3 points d'avance sur 3 uniquement. Donc c'est que c'est vraiment très dur. Et là, on est en train de, je dis pas qu'on va tout gâcher parce que si bien on va se maintenir et puis l'année prochaine, on va faire une belle saison, même si j'en doute, à part comme Lorient cette année qui a changé par rapport à l'année dernière, mais franchement, tu te tires des balles dans le pied, c'est franchement fatigant de voir que quasiment toutes les autres équipes, à part Angers, travaillent mieux que toi. Parce que derrière nous, c'est Troyes qui est un club qui est monté après nous, Auxerre et Ajaccio qui sont des promus avec, et surtout Ajaccio, avec un tout petit budget et ils ont 3 points de retard sur nous, alors que nous, on était 11e de Ligue 1 l'année dernière. Donc moi, je suis un peu agacé par le manque d'ambition, parce qu'on nous dit que Brest a de l'ambition, ceci, cela, mais par le manque de cohérence du projet. Moi, je pense, je sais pas comment tu vois le projet Brestois, si pour toi, il y en a un, déjà.
Il ouais, n'y a, pas trop de communication.
Ah oui, non, mais ça...
Donc, c'est difficile de voir un quelconque projet. Alors, j'imagine qu'il travaille de son côté, mais ce serait quand même bien d'avoir un petit avis du président une fois tous les 36 du mois.
Une fois par an, déjà, ce serait bien.
Oui, bah voilà, quelque chose, quoi, un truc, une phrase, un mot, une lettre, quelque chose qui puisse nous dire qu'il fait des choses. Alors le nouveau stade, évidemment. Mais est-ce qu'il y a autre chose que j'aime bien le rappeler, mais l'une des premières choses qui a été mise en place quand Denis Le Saint est arrivé, c'est sb29.bzda/business.
Oui.
Ah oui, le site business qui d'ailleurs ne marche plus sur le site internet. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de football? Quel est le projet? Est-ce qu'on va augmenter le budget? Est-ce qu'on va le perdre? Est-ce qu'on va enfin avoir un troisième terrain pour le centre de formation? On a beaucoup de questions qui restent sans réponse et on se demande, on se pose des questions.
Voilà. En parlant du site internet, dans les news, il y a marqué D2 féminine Strasbourg Brest 2-0 pour Brest. Tu cliques sur lien.
Ah oui, ils ont perdu.
Petit du Telegram, parce qu'ils n'ont pas foutu de faire eux-mêmes leur résumé. Et c'est en fait, elles ont perdu.
ouais.
Pardon, mais ça me fait rire.
C'est un tout, en fait. C'est un tout. On a l'impression que les bases ne sont pas solides. Le centre de formation est très bon dans les résultats, mais dans le niveau de la réserve, ça ne suit pas, puisque la réserve est actuellement relégable avec une pléthore de joueurs recrutés cet été, qui visiblement ne sont pas très très bons. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir l'opération des Ultras Brestois qui vous appelle à venir soutenir la réserve samedi contre Lannion, si je ne dis pas de bêtises, à Ménespol. Donc c'est-à-dire le match est à 18h hein, pour le maintien de la Nationale 3 dans son championnat. On n'a pas l'impression non plus qu'il y ait de véritables cellules de recrutement quand on voit le recrutement de cet hiver et surtout de cet été aussi, de cet hiver, de l'été précédent. Ibrahima Diallo toujours pas remplacé, hein, comme on l'a dit. Il y avait quand même des manques assez criants au milieu de terrain. On a recruté Madi Camara qui est un Magnetti, Belkebla, un peu plus avec le ballon, mais pas non plus dingue. Même si belle percée contre 3, il faut le dire. Avec un zinzin complètement fou, Troyen qui arrive et qui le découpe. Hein. Merci à toi. C'est un peu leur Christophe Herrel contre Auxerre, ça. Parce que franchement, ils avaient les 3 points dans la besace. Et
je pense que là, je pense qu'ils vont vraiment s'en vouloir.
Ouais, je sais pas, ouais, surtout dans la situation dans laquelle ils sont, ce qui est encore pire que Brest. Et c'est l'un des points, on va dire, des espoirs. Brest a joué pas mal de gros sur cette deuxième partie de saison. Et il lui reste un calendrier un peu plus abordable, en tout cas sur le papier. Et notamment, outre les adversaires, il y a la situation des adversaires et des matchs. De la place des matchs dans le calendrier des adversaires, puisqu'on parle de Toulouse qui joue 4 jours plus tard sa demi-finale de Coupe de France, Toulouse qui n'a plus rien à jouer en championnat. Tout à jouer en Coupe de France, hein. Ce serait quand même dommage de rater l'opportunité d'aller au Stade de France. Nice, tu me l'as dit tout à l'heure avant de démarrer, qui vient à Brest entre ces deux matchs de Coupe d'Europe.
Oui.
Et on peut aussi mentionner Clermont, par exemple, qui à la journée 36 n'aura sûrement plus rien à jouer.
J'ai également autre chose à mentionner, c'est le FC Nantes. Le FC Nantes qui vient à Brest le 30 avril. Et je crois que si Nantes se qualifie et bat Lyon, je vérifie ça. En finale de Coupe de France, je crois que la finale ce week-end-là, justement, c'est le 29 avril. Donc théoriquement, le match serait décalé. Et on peut imaginer que si Nantes est en finale et remporte la Coupe, bon, derrière, ça va être un peu la fête.
C'est le Slibar FC, quoi. Hein.
Voilà, c'est exactement ça. Et juste pour revenir à un dernier point avant qu'on parle de la suite du calendrier, si on va sur le site du Stade Brestois, dans Actualité, il y a 6 actus. Et sur les 6 actus, il y a une qui parle de foot. C'est absolument dingue. Il y a un truc boutique, un truc marée rouge, un truc forum de l'emploi, une interview d'une fille qui fait la baie des anges, je ne sais quoi, et un autre truc forum de l'emploi. Donc je me demande si dans ce club, on aime le football et si le football sert à quelque chose. Est-ce que c'est pas le football au service du business? T'as eu raison de demander. Je me demande.
C'est une vraie bonne question.
Donc ouais, calendrier, bah clairement calendrier, je cite les matchs à la rigueur très rapidement, donc ça va être Toulouse. On va faire un petit jeu, tu me dis 1 point, 3 points, 0 point. Brest-Toulouse, prochain match.
3 points.
Ouf.
Alors 3 points parce que bah, justement Toulouse en slip, hein, normalement.
Tout à fait.
Mais Reims, bonne équipe.
Oui, bonne équipe. Gros point à Toulouse d'ailleurs. Reims-Brest.
0 punto.
Le week-end de Paris-Roubaix pour ceux qui s'intéressent. Brest-Nice.
D'ailleurs, Toulouse, Tour des Flandres. Donc, Brest-Nice, 1 point.
Ok, donc ça ferait plus 4.
Ajaccio, contre les gros à domicile.
Très important le dimanche 23 avril à 15h.
0-0.
À François Côte.
Contexte difficile, on le sait.
Oui, moi je vois très bien le Stade Brestois perdre à Ajaccio. C'est totalement Stade Brestois spirit. Ensuite, le 30 avril, Brest-Nantes.
J'aimerais bien 3, mais Nantes, généralement, ça marche pas, et donc ce sera 0.
Ouais. Lorient-Brest, match au moustoir. Alors, je pense que si l'Orienté pouvait nous enterrer, il s'en priverait pas.
Est-ce qu'il y aura des supporters brestois à Lorient?
A priori, oui, il devrait pas y avoir de problème.
Alors, 1 point.
Ok, d'après ce que j'ai entendu, il y a d'ailleurs une mobilisation qui, pour l'instant, est assez forte. Brest-Auxerre. Ouh, oh là 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 là, le 14 mai, Brest-Auxerre.
Oh, oh là, on va vibrer, hein.
Bah d'ailleurs, on finit avec 4 sur les 4 derniers matchs, 3 matchs à domicile, mais les deux derniers étant très compliqués. Brest-Auxerre puis Brest-Clermont, vaudra mieux prendre 6 points.
Alors on va prendre 6 points.
D'accord, parce qu'après, ça, il restera déplacement à Marseille, bah, 0 punto.
Et 1 point contre Rennes. Après, ça va dépendre aussi si Rennes a quelque chose à jouer.
C'est ça. Donc, clairement, enfin, honnêtement, même moi qui suis pessimiste de chez Pessimiste, hein, le représentant du pessimisme FC, c'est
la dernière fois, tu as été dans le dernier podcast, tu étais optimiste en pensant que le maintien était en bonne voie, et voilà.
Non mais quand je vois le calendrier,
le destin est venu te rappeler à ses obligations.
Tu vois, il y a pas de, à part le match à Marseille, il y a rien qui est un, enfin et même encore on a gagné l'année dernière là-bas, mais c'est un exploit. Mais à part le match à Marseille, il y a rien qui me paraît injouable. Il y a Reims qui me paraît très compliqué, mais t'as pas, je sais pas, un déplacement au Parc, un déplacement à Lyon, un déplacement à Lens, des matchs qui pourraient te dire bon là, ça va être très très dur. Tu peux prendre des points partout en fait.
Ouais, ouais, tu peux.
Mais on l'a pas fait, donc moi j'ai pas de raison qu'on le fasse non plus.
Tu peux, tu peux.
Tu penses que le Brest va se maintenir cette année, toi?
Oui.
Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose?
En fait, c'est difficile quand même, même que ce soit en tant que supporter ou pas, de souhaiter vraiment la relégation de ton club. Bon, c'est quand même plus agréable de jouer contre des Paris, des Marseille, qu'aller à où est-ce qu'on peut aller à Metz, à Valenciennes, à Sochaux, à Rodez, à Pau. Ça fait pas rêver.
Queville, Rouen, Métropole.
Par exemple, bien sûr. On a été une fois, c'était suffisant. On ne veut plus retourner à Niort, on ne veut plus retourner.
Incroyable. Donc
on espère, oui, évidemment, mais on espère aussi que tout le monde se regarde dans le miroir et que tout le monde se remette en question. Parce que c'est quand même une saison qui doit te faire réfléchir sur la situation du club, sur le projet du club, sur l'avenir du club. Évidemment accéléré au niveau du nouveau stade, hein, puisque bizarrement, moi j'étais en vacances en Autriche, et quand tu fais des nouveaux stades, donc des stades assez récents, ça te donne encore plus envie d'avoir un nouveau stade, tellement l'acoustique, tellement le confort dans le stade, et Dieu sait que le confort dans un stade, moi je m'en tape assez fortement. Mais l'acoustique, le fait de pouvoir d'avoir des buvettes un peu partout, d'avoir que ce soit tout soit plus efficace, tout soit une machine beaucoup plus rodée, ça te donne envie vraiment d'avoir un nouveau stade. Alors malheureusement, ce sera, même s'il arrive, ce sera pas la semaine prochaine, clairement. Mais ouais, il faut vraiment que cette saison soit une sorte d'électrochoc pour que tout le monde retrouve un peu ses esprits et reparte dans une direction qui était très intéressante jusqu'à cette saison. Et puis clairement, il y a eu un virage qui a été raté au niveau du recrutement cet été. Et pas que, parce qu'il y a aussi quelques joueurs qui ne sont pas au niveau et qui ne sont pas au niveau auxquels ils étaient l'année dernière. Et malheureusement, je pense que ça va aussi donner envie à quelques-uns de s'en aller. Et je pense notamment aux gardiens, même si c'est, je ne pense pas que ce soit le type de personne qui demande à partir, on va dire. Mais j'imagine que ça doit être chiant d'être gardien au Stade Brestois actuellement.
Et heureusement qu'il est là, parce que si on a parlé d'Honora et d'El Castillo comme joueurs qui seraient déterminants pour le maintien, je pense que également Marco Bizot, si on venait à se maintenir, on va lui devoir une fière chandelle, même si, effectivement, je vois certains dire qu'il est quand même très irrégulier, que le but contre 3, il peut l'arrêter, etc. C'est oublier que juste avant, il en sort un, que peu de gardiens sortent, je pense, et qu'il a réussi à Strasbourg, à gagner des points quasiment à lui tout seul aussi cette année. Donc, moi, si l'année prochaine, il demande à se barrer, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, barre-toi, évidemment, fuis loin et ne reviens. Enfin, va loin.
Reviens pour dire au revoir et repart, quoi.
Ouais, voilà. Bah, de toute façon, les au revoir dans ce club.
On n'a pas le droit. Mais on pense à Gaëtan Bello, Gaëtan Charbonnier, on pense à vous tous.
Bien sûr. Tous les autres, Mathias Autrède, toute la clique. Je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu, je vais prendre une métaphore un peu scolaire, c'est un petit peu comme le Stade Brestois, si on arrive à se maintenir, c'est un peu l'élève qui a passé une classe l'année dernière et qui l'année d'après fait n'importe quoi, était à la limite du redoublement. Et on dit, bon, mon petit gars, si tu veux pas redoubler l'année prochaine, t'as intérêt de changer les choses et plutôt sérieusement. Et si le gars il change pas les choses, et ben de toute façon, le coup près il tombe tout le temps. Donc voilà. Après, l'idée c'est pas non plus de critiquer absolument tout pour critiquer, hein. Il y a des choses qui ont été bien faites par le passé. On a eu aussi des moments en Ligue 1 ces dernières saisons où on a pris du plaisir l'année dernière. Il y a des choses qui étaient bien, vraiment. Il y a des choses qui ont été bien faites. Mais il faut être honnête pour le dire, mais également assez lucide pour dire que voilà, cette année, quand tu regardes le Stade Brestois, clairement, moi, je m'ennuie. Hein, il n'y a pas à dire.
Il y a absolument aucun plaisir.
Aucun plaisir. Voilà, moi, j'ai la sensation depuis un an là, que les dimanches après-midi, ils sont gâchés par le Stade Brestois. Donc ça m'est arrivé de zapper une mi-temps et de regarder plus tard parce que de toute façon bon le match était plié à la mi-temps, ou même ça m'est arrivé une fois ou deux cet hiver là de même pas aller au stade parce qu'il y avait pas la motivation, il y avait pas l'envie, donc évidemment je regardais le match à la télé, pourtant je suis abonné, hein, mais j'avais ma place. Mais pour aller au stade, pour moi il faut qu'il y ait quelque chose. On peut perdre des matchs, je le dirais tout le temps, il y a aucun problème de perdre des matchs. On a perdu contre Paris, c'était un super match. On a perdu des matchs contre Valenciennes, fut un temps, on en prenant 5, c'était un super souvenir parce qu'il y avait une ambiance, il y avait un projet de groupe, il y avait une équipe, bon, qui avait perdu ce jour-là, mais c'est ainsi, le foot, on a le droit de perdre. Mais il y a des manières de le perdre. Et même quand on gagne, bah, c'est pas fou, quoi. Quand tu gagnes à 3 contre 3, bon, bah, c'est 2 pénaux. Tu gagnes à Strasbourg, tu te fais chier tout le match. Voilà. Après, vous allez me dire, faut savoir ce que vous voulez vous maintenir, vous voulez du beau jeu. Non, moi, je veux que Brest se maintienne, mais que Brest propose quelque chose sur la durée. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Voilà.
Donc, c'est... Et on parle de nous, on n'a pas vraiment d'émotion quand on regarde le Stade Brestois, mais même les joueurs, je pense. Même les joueurs, ça doit pas être plaisant pour eux. Il n'y a pas d'émotion dans ce qu'ils proposent. Personne n'est content de ce que, même les joueurs, hein, je pense qu'ils savent qu'ils ne proposent pas du très beau football, parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion dans le jeu. Ça joue petit bras, ça joue pas vraiment au foot, ça balance. Je pense qu'un Romain Del Castillo, c'est pas du tout la façon dans laquelle il aimerait, l'équipe dans laquelle il aimerait évoluer. Hein. Si on lui avait proposé ce projet-là il y a 2 ans quand il est arrivé, bah écoute Romain, on va te recruter, mais tu vas pas trop toucher la balle. On a des défenseurs centraux, leur point fort c'est de balancer des ballons, donc voilà. Il faudra être là au second ballon. Voilà, tu auras peut-être un latéral gauche, mais qui n'est pas trop gaucher, donc il faudra que tu fasses attention, il faudra lui mettre les ballons sur son pied droit. Bah, je pense que Romain Del Castillo, non merci, je vais rester sur le banc à Rennes, quoi. Donc vraiment, même les joueurs, ça ne doit pas être plaisant de jouer pour le Stade Brestois cette année.
Je suis tout à fait d'accord, et le fait que tu prennes l'exemple de Del Castillo, c'est assez amusant, parce que j'ai vu l'autre jour, ça fait 2-3 jours, une vidéo qui remettait en fait... c'était une vidéo qui portait sur Camavinga et son match contre le PSG quand il avait 16 ans, et quand ils avaient battu le PSG, où il avait fait une grosse perf, et en fait, bah, Del Castillo joue ce match et marque le but de la victoire, de la tête d'ailleurs, sur une passe de Camavinga, et je me dis, mais en fait, Del Castillo, il y a 4 ans, il jouait ce genre de match à Rennes. Qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa carrière? Qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné à jouer chez nous maintenant, quoi? J'ai vraiment de la peine. J'ai de la peine pour lui. Je me dis, Honora, quand on dit qu'il a fait la gueule pour partir, mais en même temps, il faut le comprendre. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a vu de nombre de ballons arriver de la défense par-dessus sa tête depuis des semaines et des semaines. Où je pense qu'au bout d'un moment, une carrière de footballeur, elle est courte. Tu as le droit de vouloir autre chose aussi, quoi. Donc c'est compliqué, et je pense que le public est très gentil, hein. Le public à Brest est très sympa. Il y a juste eu contre alors c'est le dernier match à domicile avant Paris, rappelle-moi,
Monaco.
Est-ce que t'étais là contre Monaco? Ouais.
Oui, il y a eu
alors que actuellement le Bénin de Steve Mounier qui est titulaire non qui n'est pas titulaire Steve Mounier visiblement qui n'est pas titulaire est en train de perdre contre le Rwanda. Il y avait eu des sifflets, il y avait eu d'ailleurs une réaction que je trouvais un petit peu stupide de la tribune, avec mouiller le maillot, avec des invectives et tout. C'est pas, je trouve ça pas bien. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même un soutien encore actuellement qui est quand même très fort pour une équipe qui ne propose rien. Et je pense que pour s'en sortir, il faudra que ça reste comme ça.
Ouais. Ouais, surtout il y avait des joueurs qui avaient été pris en grippe plus que d'autres. Alors que je pense que tout le monde est dans le même bateau, que ce soit positivement ou négativement. Alors évidemment, il y a des joueurs qui performent mieux que d'autres, mais c'est pas non plus, ça ne mérite pas d'être plus souligné qu'un autre, quoi. Vraiment, il n'y a pas vraiment un joueur pour rattraper l'autre dans cette équipe et dans ce qu'on voit tous les week-ends. Donc on espère que l'idée, c'est quand même pas de scander le nom d'un joueur parce qu'il a fait un bon match alors qu'il va en faire 3 mauvais les 3 prochaines semaines, quoi. Donc voilà, c'est tout un processus compliqué que l'on vit actuellement. C'était mieux quand on avait démarré le podcast.
Bah, quand on avait démarré le podcast, c'est vrai qu'on était sur la dynamique de la montée, on se faisait vraiment vraiment plaisir, et là c'est un petit peu plus dur parce que le foot ça reste quand même normalement un divertissement, ça reste un spectacle, en déplaise à Antoine Comboiré, Michel Darzacarian, c'est des moments où tu prends du plaisir au stade, il y a de l'émotion, et là cette année c'est je dirais presque c'est de la souffrance par à certains égards, hein. Enfin il y a des choses, tu te dis mince, mais je vais aller voir l'homme Maria jouer, ce sera plus drôle, quoi.
T'as l'impression de devenir le cliché du club de Ligue 1.
Oui. Tout à fait.
Qui recrute un entraîneur français dans sa cinquantaine qui est passé par un autre club de Ligue 1 avant, avec une équipe qui joue pas très bien au foot. On a l'impression d'être un club de Ligue 1 de base, quoi, où personne ne parle de toi en tant que bien, comme Reims, Lorient par exemple, cette saison. Personne ne parle bien en tant que mal, comme Angers. T'es juste là, quoi. T'es là, tout le monde s'en fout de toi sauf tes supporters. Tu fais pas de bruit, mais voilà, t'es là, quoi. Je sais pas ce que tu fais là, mais t'es là. Voilà, bon bah. Super, on va arrêter là.
Ça valait le coup.
On va se tailler les veines, et puis ça va aller mieux après. C'est que du football. C'est que du football. Il y a des choses plus graves qui se jouent. Fanch, je te remercie.
Bon, on a fait le tour, hein.
On a fait le tour.
Très bien.
Ce qui est une bonne nouvelle. C'est qu'on a dit plein de choses mauvaises, donc ça va aller mieux.
Oui.
Bien sûr, si ça va mieux, on va se taire jusqu'à la fin de saison. Et si ça va pas mieux, on continuera à dire ce qui va pas. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir, hein, si vous avez des choses négatives, positives, sur le podcast. Généralement, c'est plutôt le son. On espère que ça va se décanter dans les semaines, voire mois à venir, peut-être pour la saison prochaine. Il y a des petits trucs qui se préparent peut-être pour ce podcast. Sur ce, bonne trêve à tous.
En espérant juste que si on a un bon son dans les semaines à venir, ce soit pas pour débriefer des Brescevilles, quoi.
Non, c'est vrai, ce serait dommage.
Ce serait terrible.
Ce serait terrible. Bonne trêve à vous, pas de Stade Brestois ce dimanche, on est heureux. Et on se retrouve évidemment à Francis Leblé pour le match contre Toulouse. N'est-ce pas, Fanche? Et aux autres, bonne trêve. Et malgré tout, quand même, allez Brest, parce qu'on reste Brestois.
Tout à fait. Allez Brest.